Alléluia, content de vous voir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Certes, on n'a pas encore vu cette année, donc encore on a le droit, non? De dire meilleurs vœux. Oui, que 2012 soit la meilleure année de votre vie. Amen. Qui croit pour cela? Amen. Vous êtes prêts pour une bonne année? Le meilleur année jusqu'ici? Oh, hallelujah. Donc, c'est vraiment le sujet que le Seigneur nous a donné dans le cœur pour cette année. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Amen. Donc, ça va être le thème pour cette année. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Prends votre Bible en main. On a aussi changé notre déclaration pour cette année. Donc, vous voulez lire, déclarer avec moi, tous ensemble. Voici ma Bible. La foi vient de ce que j'entends et je décide d'entendre la parole de Dieu. Je donne libre cours à l'Esprit de Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je demande à Dieu de me remplir de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais je mets en pratique la parole. Et je suis heureux dans mon activité. Je crois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez asseoir. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu le dit, vous êtes la prunelle de ses yeux. Amen. Le psalmiste dit dans le psaume 17, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de ton œil. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc cette année, ce que le Seigneur m'a mis fortement dans le cœur, que nous puissions comprendre la valeur de l'être humain aux yeux de Dieu. Et d'établir le caractère de Jésus en nous. Amen. Donc on va travailler cela toute l'année. Je ne sais pas si je peux dire pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Je pense, au fur et à mesure qu'on avance dans ce sujet, on va comprendre. Mais je pense qu'il y avait quand même un certain déclic quand on a commencé de parler de ces 7 milliards de personnes sur Terre. Et vous savez ce que le Seigneur m'avait dit avant que je savais qu'en novembre, qu'on allait arriver à ce chiffre. Il m'a dit, chaque homme, chaque femme a du valeur à ses yeux. Amen. Vous n'êtes pas un chiffre. Vous êtes quelqu'un. Amen. Vous pouvez tourner à votre voisin et dire, vous êtes quelqu'un. Donc nous allons étudier l'attitude de Dieu envers l'homme. Est-il en colère avec l'homme comme nous avons trop souvent entendu? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est en colère avec le péché? Peut-être on peut dire oui. Est-ce qu'il est en colère avec le pécheur? Non. Dieu aime l'homme. Et la Bible nous révèle la volonté de Dieu et nous révèle la personne de Dieu. Amen. C'est pourquoi on vous encourage à le lire tous les jours pour connaître votre Dieu. Amen. Un verset très très connu, ça va être notre verset clé pour cette année, Jean 3:16. Et je pense que la plupart de vous, vous pouvez citer ça par cœur, n'est-ce pas? Sauf que c'est pas par cœur, peut-être c'est par tête. Peut-être vous l'avez mémorisé. Ce que j'aimerais, que c'est dans cette année qu'on fasse descendre, oui, c'est 37 centimètres du cerveau jusque dans le cœur qu'on puisse dire, c'est dans mon cœur. Vous le dire avec moi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu pour le monde. Amen. Il aime le monde. Il aime les hommes dans le monde. Romains chapitre 5, verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est un verset très, très important, n'est-ce pas? Quelle est l'attitude de Dieu aujourd'hui envers les gens qui ne sont pas dans les églises, envers les hommes qui ne pensent même pas à Dieu, qui n'ont jamais pensé à Dieu? Quelle est sa pensée envers eux? La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, vous vous rappelez cette époque dans votre vie? Non? Certains de vous, vous étiez élevés peut-être dans une famille chrétienne et vous avez toujours connu Dieu. Je n'ai pas eu ce privilège, parce que c'est un grand privilège. Mais j'ignorais Dieu et je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Jusque que j'ai vu des chrétiens, des vrais, qui n'aimaient pas seulement Dieu, mais qui m'aimaient aussi. Dieu aime les pécheurs. Et il a donné Jésus pour vous quand vous n'avez pas eu une pensée pour lui. Quelqu'un dit « Alléluia ». Ça c'est bon, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai un verset à ajouter à cela. Romains chapitre 8 et verset 32. Et ce verset tourne en moi et tourne en moi. Je le cite et je le recite. Et peut-être c'est un verset que vous voulez adopter pour vous. Parce que souvent on est en train d'essayer de recevoir quelque chose de Dieu. On n'est pas sûr qu'est-ce que Dieu veut. Il dit, lui, en parlant de Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça, c'est un verset à méditer, n'est-ce pas? Il nous a donné son fils. Il n'avait plus rien de plus précieux à donner. Maintenant, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu désire vous bénir au-delà de ce que vous puissiez imaginer aujourd'hui. Quelqu'un dit Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu les choses, mais en époque, dans l'histoire, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. Et aujourd'hui, on rigole de ça, n'est-ce pas? Oui. Je pense que nous sommes tous sûrs que la Terre, oui, déjà que le Soleil ne tombe pas autour de la Terre, parce que les hommes ont cru ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on sait que la Terre tourne autour du Soleil et qu'il y a plein d'autres planètes, et etc. Et je ne connais pas tous les termes. Oui. Mais une chose que je veux que vous sachiez, selon la Bible, l'homme est le centre de l'intérêt de Dieu. Je sais qu'il y a des gens, et peut-être vous faites partie de ces gens qui sont tout le temps en train de poser des questions, est-ce qu'il y a des autres êtres vivants sur d'autres planètes? Et j'ai la réponse pour vous aujourd'hui. Vous êtes prêts pour cette réponse? Oui. Je ne sais pas. C'est la réponse. Et nous ne savons pas. Parce que ce n'est pas marqué dans nos Bibles. Mais toutes les choses, tous les films, tous les livres qui ont été écrits attendent toujours de notre planète quoi? Un sauveur! On attend que quelqu'un vienne nous sauver de quoi? Surtout de nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que le plus grand problème sur la planète, c'est quoi? C'est les autres. Non, peut-être pas. Peut-être pas, j'ai besoin de regarder aussi loin. Peut-être c'est nous. Vous êtes d'accord? Je peux vivre selon ce qui est révélé dans ce livre. Et la Bible dit que nous sommes le centre de l'intérêt de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Vous voulez dire à votre voisin, vous êtes la prunelle de ses yeux. Le psaume chapitre 8, versets 5 à 7. J'aime les proverbes et j'aime les psaumes. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose là-dedans. C'est pourquoi j'essaie de lire tous les jours un psaume, un proverbe, au moins. Au moins. Hein. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. L'homme est quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous vivons dans une société, dans un siècle où nous croyons, et peut-être vous le croyez, si vous le croyez, peut-être je vais vous secouer un petit peu aujourd'hui, que vous êtes donc évolués des animaux. Parce que c'est ce qu'on apprend à l'école, que nous sommes que des animaux bien évolués, avec une intelligence plus éveillée. Mais vous savez, ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance, et nous avons le potentiel de Dieu en nous. Nous sommes comme notre Dieu, nous sommes créateurs. N'est-ce pas? Amen? Vous êtes artiste? Vous n'êtes pas. Vous êtes musicien ou pas? Chacun d'entre nous, nous sommes là, chez nous, en train de dire... Qu'est-ce que je peux changer? qu'est-ce que je peux faire? Et quelquefois, nous pensons à quelque chose et on dit, je ne sais pas si quelqu'un a jamais eu cette pensée sur la terre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord et premièrement esprit. Et après, nous avons une âme, un intellect, une volonté, des émotions, et nous vivons dans un corps. Mais nous sommes d'abord, et c'est ce que les animaux ne sont pas, ils ne sont pas esprits. Ils sont âme et corps. Et combien nous aimons certains animaux. D'autres en aiment moins, n'est-ce pas? J'étais en Haïti, un grand tarantula, la taille de ma main a passé comme ça. C'était super, je l'ai laissé passer. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, comme ça. Mais il n'a pas d'esprit. Il n'est pas créé à l'image de Dieu. Je le suis. Amen. Dieu a décidé de me créer à son image, selon sa ressemblance. Et c'est pourquoi les hommes, peu importe leur couleur, peu importe leur âge, peu importe leur quotient intellectuel. J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose qui m'a un peu, je ne sais pas quoi, mais il dit, nous sommes tellement concernés aujourd'hui du QI des gens, le quotient intellectuel, que nous devons plutôt travailler notre QE, notre quotient émotionnel. Parce que certains avec un QI très élevé ont un QE très bas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui? Oui? Ils peuvent même pas vivre une vie normale. Je peux vous expliquer les physiques et les maths, donc, ici. Mais ils peuvent même pas avoir une conversation naturelle avec quelqu'un. Et il faut que vous travaillez votre QE. C'est difficile pour l'anglais, vous savez? Hein? Ok. Le psaume 139, 13 et 14. Quelle est votre attitude envers les autres? Est-ce qu'ils ont des valeurs à vos yeux? Je pense qu'il faut que nous posions une autre question avant. Est-ce que nous avons du valeur à nos yeux? Est-ce que vous avez du valeur à vos yeux? Parce que nous sommes en train d'apprendre que nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. Et nous avons pris une décision parce qu'on était en train de réfléchir. Est-ce qu'on allait mettre « Je suis la prunelle de ses yeux » et on a dit « Non, on ne veut pas porter l'attention sur moi, sur toi. On veut porter notre attention à l'extérieur. » Parce que certains vont lire « Je suis la prunelle de ses yeux » et dit « Pas moi. » Mais nous voulons le déclarer, vous êtes, chaque homme à Nice, chaque femme à Nice, peu importe sa religion, son culture, son éducation, Dieu les aime et il veut les connaître. Le psaume 139, c'est un des versets absolument exceptionnels. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le psalmiste parle de son existence en tant qu'être avant sa naissance. Je ne sais pas si vous avez jamais vu l'horloge mondiale qui parle de combien de personnes sont nées et combien de personnes décèdent. Ça continue. On continue. Et il dit de quoi les gens sont morts. Et tous les chiffres, il dit pour le sida, il dit pour toutes les différentes épidémies, et tu vois ça, tourner toute la journée. Vous pouvez aller sur l'internet et trouver. Et il marque toujours, ça ne, pour les morts, pour les chiffres des gens morts, ça ne parle pas de tous les gens qui sont avortés. Il donne un chiffre pour les gens avortés. Et il y a la moitié des gens qui meurent par jour, encore meurent par avortement, par jour. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Je ne sais pas si la vie a de valeur pour vous, mais pour Dieu, quand un homme et une femme s'unissent et un bébé en résulte, ouais, ça commence 9 mois normalement, 37 et demi, je crois, n'est-ce pas, semaines, avant qu'on voit ce petit bout de chou. On aime beaucoup les échographies maintenant, n'est-ce pas? quand les femmes sont enceintes, vous allez avec votre femme. C'était tout nouveau quand nos enfants, quand Laura était enceinte avec nos enfants. Dans certains pays, ils n'acceptaient pas ça parce qu'ils pensaient que c'était dangereux pour les femmes. Mais je me rappelle aller voir, ils mettaient cette gel sur l'estomac. Qui a vu ça? Quelques-uns d'entre vous. Okay, pour les autres qui n'ont pas vu, mais on met un gel sur l'estomac, ça fait froid peut-être, je ne sais pas. Et on met une machine et on voit le bébé. Et souvent, on voit ce petit bébé avec la pousse dans la bouche, tu vois. Et évidemment, on regarde particulièrement pour voir s'il a quelque chose entre les jambes. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Mais c'est normalement les questions, n'est-ce pas? Et on commence à compter les doigts après un moment. Mais on voit et tu entends les battements de cœur du maman et du bébé. C'est un être vivant. Amen. Et je pense que c'est important pour nous en tant que chrétiens de régler ça une fois pour tous. Oui, à la conception, oui, c'est un être humain. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Pourquoi pas imiter Dieu? Amen. Tel père, tel fils, vous êtes enfant de Dieu? Oui, imitons Dieu. Éphésiens 5:1 dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et je crois que ce message de cette année va nous remuer un petit peu. Pourquoi? Parce que je pense souvent on a des attitudes envers des gens. Allô? Et une chose que je sais, si on veut croître spirituellement, on a besoin de traiter nos attitudes. Oui? Vous êtes d'accord? Hallelujah. Quelqu'un m'a dit quand j'étais tout jeune dans le Seigneur, si vous ignorez comment est Dieu, regardez à Jésus. Amen. Parce que quelquefois on pose des questions, mais comment est-ce que Dieu va réagir? Et dit, regardez à Jésus. Et Jean 19 dit, Jésus parle à Philippe qui lui a posé la question. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, mais je suis avec vous si longtemps et vous n'avez pas compris. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc, je pense qu'on va prendre du temps pour regarder comment Jésus a traité les hommes et les femmes. Et ce que nous allons remarquer, ce que je remarque en lisant les évangiles, et je vous dis que je lis au moins un chapitre dans les évangiles tous les jours parce que je veux voir Jésus. Je veux voir comment Jésus réagit. Amen. Peut-être que la technologie a beaucoup changé. Jésus n'a jamais monté en voiture ou en avion. Il n'avait pas un portable ou un ordinateur. Oui, mais il y avait des hommes et des femmes en face de lui qui n'étaient pas très différents que les hommes et les femmes en face de vous et en face de moi. Amen. Et ce que j'ai remarqué avec Jésus, c'est qu'il a traité les hommes et les femmes, et je souligne cela, oui, il les a traités avec dignité et avec respect. Et moi, je vous dis, il faut que nous fassions pareil. Vous êtes d'accord? Normalement, nous ne respectons pas les autres. Et nous ne traitons pas les autres bien parce qu'il y a un problème en nous, que nous ne respectons même pas nous-mêmes. Et j'espère à travers cette année, vous allez avoir un grand respect pour la Créateur de Dieu que vous êtes. Hallelujah. Amen. J'ai pensé à 4 personnes. On ne va pas les étudier aujourd'hui, mais j'ai pensé à Zachée. Est-ce que quelqu'un se rappelle l'histoire de Zachée? Oui, en Luc 19, on a l'histoire de Zachée. Qui peut me dire quelque chose sur Zachée? Il était perché sur un arbre. Pourquoi il était perché sur un arbre? Parce qu'il était petit. Il ne pouvait pas voir. Il avait entendu parler de Jésus, donc il perche sur un arbre. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, Jésus va vers lui. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Je vais dîner chez toi. Et nous avons tous les pharisiens, tous les sadduciens, tous les religieux de l'époque qui sont choqués quand les British. Choqués. Nous sommes choqués. Oui. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais il dîne avec des pécheurs notoires. Il était un publicain. Oui. Mais on voit quelque chose d'absolument exceptionnel parce que Jésus s'arrête pour cet homme, choisit cet homme, dit, je viens restez chez vous ce soir. Et on voit Zachée dire des choses. Et Jésus dit, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison. On va revenir là-dessus. Parce que les hommes religieux de l'époque ont rejeté cet homme. C'est un pécheur. Dieu ne s'intéresse pas à lui. Et Jésus dit, je m'intéresse à lui. Un autre. On voit plusieurs lépreux. dans la vie de Jésus, mais on voit dans Luc 5 un lépreux qui vient poser la question. C'est la seule personne dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qui pose la question: Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il a dit: si tu le veux, tu peux me guérir. Et on voit Jésus fait ce que aucun homme à l'époque aurait fait. Parce que vous savez, la lèpre, c'est contagieux. On ne touche pas un lépreux. Ouais. Et Jésus n'a pas seulement dit « je le veux », il a fait, mais il a touché. Il a touché celui qui était intouchable. C'était la loi que le lépreux devait dire, crier « impur, impur » et s'éloigner des gens. Tu vois la réaction de Jésus? La femme adultère. On se rappelle de cette histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez me rappeler de cette histoire? Les gens voulaient le lapider. Qui voulait le lapider? Des hommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Les hommes voulaient lapider cette femme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était prise, la Bible dit, en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous faire un dessin, mais normalement, il faut au moins deux pour l'adultère, non? Vous n'avez pas remarqué ça? Et elle est emmenée toute seule. Oui. Ça, c'est la justice des hommes. Et il faut comprendre, à l'époque de Jésus, les femmes étaient moins que rien. Les femmes n'avaient pas le droit d'être en société. Les femmes étaient traitées quelquefois pire que des bêtes. Et nous voyons ça encore aujourd'hui par la religion. Et nous devons en aucun cas accepter ça. Pourquoi? Parce que Jésus a relevé la femme là où Dieu l'a mis au commencement. Dieu a créé les hommes et les femmes, Genèse dit, à son image, selon sa ressemblance. Hello? Ouais, certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être de digérer ça. Je ne sais pas d'où vous venez. Moi, je viens d'une famille où mon père a toujours respecté ma mère a toujours respecté mon père, et ils ont mis en nous, en chacun de leurs enfants, un respect pour l'humanité, et je bénis Dieu pour ça. Il ne nous a pas donné une éducation chrétienne, mais il nous a montré ce que c'était juste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu tellement d'injustices dans leur enfance. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans vos enfants? Comment est-ce que vous parlez des gens de différents pays, de différentes cultures, de différentes couleurs? Amen? La femme adultère, on l'a jetée devant Jésus, et on voulait faire quoi, elle? Le lapider, parce que la loi disait qu'il fallait lapider, pas la femme, mais les deux. Ça, c'est la justice des hommes, n'est-ce pas? On prend l'un, et peut-être l'autre avait plus d'argent, donc il a pu payer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Oui, qu'est-ce qu'il a? Il a dit quelque chose, n'est-ce pas? Oui, Jésus a rarement répondu à des questions avec des réponses. Il a presque toujours posé des questions pour que les autres réfléchissent un peu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Amen. Donc, je vous fais un petit peu comme Jésus, d'accord? Et il a dit, il a posé la question que celui qui n'a pas péché, qu'est-ce qu'il fait? Il jette la première pierre. Est-ce qu'il y avait quelqu'un là qui n'avait pas péché? Pardon? Ils sont tous partis sauf, rappelons-nous, il est l'agneau de Dieu sans péché. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. C'est pourquoi il faut qu'on fixe les yeux sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de notre foi, parce qu'il a vécu sans péché, et il va nous montrer comment vivre sans péché, et son attitude envers les autres l'a aidé à vivre sans péché. Et il est là, avec la femme. Tous les autres sont partis. La Bible dit clairement qui est parti d'abord. Les plus vieux sont partis jusqu'à les plus jeunes. Pourquoi? Parce que je pense qu'eux, ils avaient commis plus de péchés que les plus jeunes. Ou peut-être qu'ils étaient plus sages. On dit plusieurs choses. On dit qu'il était en train de faire quoi dans le sable? Il dessinait, il écrivait. Est-ce que vous savez ce qu'il écrivait? Moi, j'ai entendu deux versions. On ne sait pas, d'accord? Mais on peut imaginer, n'est-ce pas? Il a dessiné un poisson, ok? Et les frites aussi. Non, je ne pense pas, mais qu'est-ce qu'il aurait pu dessiner? Quelqu'un sait? Et il aurait pu commencer à écrire. Certains disent qu'il a commencé d'écrire les 10 commandements. Et c'est pourquoi les gens sont partis l'un après l'autre. Et quelqu'un autre a dit, j'ai entendu celui-là, qu'il était en train d'écrire tous les petits noms des maîtresses de ces hommes. Jésus connaissait leur cœur, mais il ne restait personne sauf Jésus. Et Jésus, selon la loi, aurait pu faire quoi? Il aurait pu lapider, n'est-ce pas? Que celui qui est sans péché jette le premier pierre, il aurait pu prendre Pierre et selon la parole, il aurait pu lapider cette femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné, il dit, je ne te condamne pas non plus. Ça c'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un se sent condamné aujourd'hui? Parce que vous savez, Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Il n'est pas venu pour vous culpabiliser. Mais il n'a pas resté là. Il n'a pas dit, je te condamne pas, va retourner dans ton péché. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Va et ne pêche plus. Et je veux que vous entendez ça très fort. Oui, parce qu'il y a certains qui disent que nous pouvons vivre n'importe comment. Non, Jésus nous a justifiés par le sang. Son sang, n'est-ce pas? Nous sommes justes devant Dieu, mais il faut que nous marchions dans cette justice. Il faut qu'on marche droit avec Dieu. Vous êtes d'accord? Si j'ai péché, Jésus ne me condamne pas, il vient dans ma vie pour me pardonner, pour me sauver. Vous êtes d'accord? Mais je ne peux pas retourner à ce péché. Quelle erreur! Amen? Ok, dernière pour l'instant, la Samaritaine. Vous vous rappelez la Samaritaine? Non? Jean chapitre 4, qui peut me raconter l'histoire de la Samaritaine? Qu'est-ce qu'on sait de cette Samaritaine? Elle est venue et puiser de l'eau, oui, quand il n'y avait personne. Est-ce qu'on sait pourquoi Jésus était là seul? Il avait soif. Non, il n'était pas seul parce qu'il avait soif, mais il avait soif. Pourquoi il était seul? Il a renvoyé ses disciples dans la ville d'où venait cette femme pour acheter des vivres. Et la Bible dit que Jésus était fatigué. Quelqu'un dit hallelujah. Vous savez, il faut que nous comprenions aussi. Nous avons un homme à la droite de Dieu. Jésus s'est fait homme. Il sait ce que c'est d'être fatigué, d'avoir faim, d'avoir soif. Il sait toutes les émotions par lesquelles vous passez. Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est le parfait, souverain, sacrificateur. Il est devant Dieu en disant, « Père, je sais ceux qui sont en train de souffrir. J'ai été là. » Amen. Moi, je trouve ça merveilleux. Je ne parle pas avec quelqu'un qui ne peut pas compatir à ma faiblesse. Oui, la Bible dit c'est qu'il s'est vêtu d'un corps comme le nôtre. La Bible dit qu'après qu'il a jeûné, il a eu faim. Et là, il a soif et il est fatigué. Oui, mais ça ne l'empêche pas de parler avec cette femme. Et elle est étonnée parce que les hommes et les femmes ne parlaient pas. Pas seulement ça, elle est samaritaine et les juifs et les samaritains n'adressaient même pas la parole. Normalement, ils auraient, se sont croisés sans se regarder, sans dire une parole. Sauf que Jésus voit le cœur de cette femme. Il voit sa souffrance. Quelqu'un peut dire quelque chose sur cette femme? On connaît quelque chose, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quoi? Elle a eu plusieurs maris. Et on sait, n'est-ce pas, que les gens qui ont été divorcés, c'est des gens qui ont beaucoup souffert. N'est-ce pas? Oui? Non, parce qu'il y a des gens qui ont des attitudes envers les gens divorcés. Vous savez, ils ont déjà souffert assez sans qu'on en mette plus. L'Église doit être un endroit où ils peuvent venir, être aimés, être rétablis et repartir. Vous êtes d'accord? Et moi, je veux que vous entendiez ça, parce que vous avez plein d'amis qui sont divorcés, qui croient que l'Église les a rejetés. Nous voulons que les gens viennent, se marient dans notre Église et qu'ils vivent heureux pour le reste de leur vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais nous réalisons qu'on vit dans une société aujourd'hui où plus que la moitié des mariages se terminent en divorce. Et au lieu d'accueillir ces gens, aider ces gens, se rétablir et se remarier, oui, on les traite de deuxième classe souvent. Jésus n'a pas traité cette femme comme ça. Il a respecté, il a honoré. Et il lui a parlé de quoi? Parce qu'il est venu puiser de l'eau. Il lui a parlé de quoi? De l'eau vive, de la vie éternelle. Amen. Et 12 apôtres sont allés dans la ville et sont revenus avec des vivres. Cette femme est retournée dans la ville et l'a fait sortir toute la ville. Quel évangéliste. Amen. Mais je voulais marquer ces choses et on va prendre le temps pour lire ces histoires, connaître ces histoires, parce que je pense que c'est important de savoir que vous êtes la prunelle de ses yeux. Et les gens qui habitent à Nice sont les prunelles de ses yeux et Dieu les aime. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Dieu aime les gens à Nice qui habitent autour de moi, qui travaillent autour de moi, qui font des commissions autour de moi. Dieu les aime et je dois apprendre à les aimer. Moi, je vois Jésus, je trouve qu'il s'intéresse aux malades. Il s'intéresse aux opprimés, à ceux qui sont dans le péché. Et je vois chaque fois, il est en train de les relever. Il touche les intouchables. Il guérit les malades. Il aime les gens qui ne sont pas aimables. Luc chapitre 5, versets 31-32. Il y a des versets clés dans la Bible qui vraiment déclarent, et moi je dis tranchent avec la religion. J'aime pas la religion parce que je trouve que la religion enterre les gens. Et le christianisme n'est pas une religion. Certains ont fait de la christianisme une religion, mais ce n'est pas rempli de traditions et de lois. C'est rempli d'amour et de relations. Le christianisme, c'est ma relation avec Dieu. Et grâce à cette relation avec Dieu, je peux avoir une relation saine avec vous. Et pareil pour vous, n'est-ce pas? Et quand il y a un problème entre nos relations, entre nous, parlons chacun avec Dieu d'abord. Avant de parler avec d'autres, sûrement, surtout. Mais après, quand on a parlé avec Dieu, on peut parler avec les autres, n'est-ce pas? Et Dieu nous aide à régler ces choses. Jésus dit, donc Jésus prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Et sur la terre, il y a eu combien de pécheurs? Actuellement, combien de pécheurs sur terre? Il y a 7 milliards, n'est-ce pas? Et si nous répondons à l'appel de Dieu, nous pouvons devenir justes en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Oui, on ne reste pas pécheur. Il change, il transforme notre cœur. Mais c'est un don de Dieu. Ne vous mettez jamais comme les pharisiens en croyant que c'est par vos œuvres et par votre propre justice. Parce qu'on perd tout, qu'on oublie que c'est un don et ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Hallelujah. Donc, nous sommes en train de parler de vous êtes la prune de ses yeux. Je veux parler de deux commandements. Vous connaissez les deux commandements du Nouveau Testament? Aimer Dieu, aimer son prochain. Pas trop difficile, n'est-ce pas? Amen. Matthieu 22, 36 à 40 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, hein, comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce qu'on peut comprendre de l'Ancien Testament, tous les commandements, toutes les lois de l'Ancien se résument dans ces deux choses. Vous aimez Dieu? Vous aimez les autres comme toi-même. Donc, moi je dis, il y a une troisième chose à faire là. Donc, il faut aimer soi-même. Allô? Vous aimez vous-même? On peut le refaire? Dis, je m'aime. Hallelujah. Comment est-ce possible d'aimer les autres? J'ai encore quelque chose à dire et on va terminer, d'accord? Comment est-ce possible d'aimer les autres? Romains 5, 5 affirme que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez invité Jésus d'entrer dans votre vie, vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Et quand vous naissez de nouveau, l'Esprit de Dieu met en vous l'amour de Dieu. Est-ce clair pour tout le monde? Amen. C'est très très important que nous comprenions cela parce que j'ai entendu les gens dire, mais il faut qu'on prie pour un baptême d'amour. Il faut que, ouais. Non, il faut laisser ce que Dieu a mis en nous sortir. Amen. Dieu m'a toujours donné cette illustration, ça revient tout de suite. C'est une illustration d'une voiture dans un garage. Si vous gardez la voiture dans le garage, sauf que c'est une voiture collection, que peut-être vous pouvez vendre en 10 ou 20 ans beaucoup plus cher, ouais, ça ne vaut rien dans le garage. Vous êtes d'accord? Le garage protège la voiture des mauvais temps et les choses comme ça, mais on sort la voiture pour aller quelque part. Vous êtes d'accord? C'est exactement pareil. L'amour de Dieu dans notre cœur n'est pas pour rester, c'est pour ouvrir le cœur et sortir cet amour et bénir les autres. Oui? Vous voulez que cet amour grandisse? Il faut l'utiliser. Plus que vous semez l'amour, plus que ça va grandir. Amen? Donc, je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous. Tournez en 1 Corinthiens chapitre 13. Parce qu'on va faire une bonne déclaration dans un instant, mais je veux le lire d'abord. Donc, dans la version semain, il utilise le mot charité, mais je ne vais pas utiliser le mot charité, je vais utiliser le mot amour. Parce que charité, c'est un mot qui est un peu déformé. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfuit point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Beaucoup de gens croient que c'est le 10e don de l'esprit, le don de suspicion. Non, il n'y a que 9, d'accord? Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et cet amour est où? Est-ce que c'est dans ton cœur? J'ai une déclaration à faire avec vous. Oui, que là où il dit l'amour, on va dire je. Je suis patient. Vous pouvez le lire avec moi? Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je ne suis point envieux. Je ne monte point. Je ne monte point d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Je ne mérite point. Je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout, je crois toujours le meilleur, je supporte tout, je ne péris jamais. Et c'est ça quelque chose qu'on peut faire régulièrement, déclarer que cet amour qui est en nous sort. Amen. Et nous savons quelque chose, au moins si vous êtes dans cette église depuis un moment, vous savez combien on met l'accent sur l'importance de déclarer la parole de Dieu. Si on veut que la parole de Dieu devienne réalité dans notre vie, il faut la déclarer. C'est bon de le lire, vraiment important de la méditer, mais il faut la déclarer si on veut que ça devienne manifeste dans notre vie. Amen. Donc, je ne veux pas, et nous avons pris la décision de ne pas terminer nos réunions sans donner l'occasion aux gens d'inviter Jésus d'entrer dans leur vie. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez le faire avec nous, ou peut-être vous êtes en train de revenir au Seigneur, vous pouvez le faire. Donc, est-ce que vous voulez vous lever et on va faire cette déclaration tous ensemble? Je pense que c'est important encore de déclarer ces choses. Amen. Donc, vous pouvez le lire si vous voulez, après on va le dire tous ensemble, que nous croyons en Jésus. Qui est mort à notre place, qu'il a payé pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qu'il est le Seigneur sauveur de notre vie. Amen. Et que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voulez le faire avec moi? Ensemble? Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois que je suis sauvé. Je suis la prunelle de ses yeux. Amen. Est-ce que vous voulez tourner à quelqu'un et dire, vous êtes la prunelle de ses yeux? Alléluia. Alléluia. Peut-être vous avez fait cela pour la première fois dans votre vie. Si vous l'avez fait, Jésus est dans votre cœur maintenant. Et vous pouvez marcher avec lui, grandir en lui, donner plus de place. Prends le temps de venir à l'église. Prends le temps de lire la Bible. Il faut que vous grandissiez dans le Seigneur. Nous avons des groupes de maisons, nous avons les réunions de prière. Vous pouvez joindre à ces choses et vous pouvez grandir spirituellement. Amen.